de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler de cinéma, de films qui sont sortis sur les écrans depuis le 11 février. Et toi aujourd'hui, Sophia, tu as le seul film français.
Oui Vincent, je vais vous parler de LOL 2.0, le dernier film de Lisa Azuelos.
Et puis toi, tu es parti du côté de l'Asie.
Oui, mais avec un petit peu de France, vous allez voir pourquoi, parce que je vais vous parler de Aucun autre choix de Park Chan-wook.
Et puis d'un autre film.
Et oui, de documentaire sur Jeff Buckley, It's Never Over, Jeff Buckley.
Quant à moi, j'ai vu le film Les Dimanches, formidable film espagnol. J'ai vu aussi Hurlevent et le dernier Sam Raimi, Saint Help, qui nous donnera l'occasion de jouer à un blind test autour de la filmographie de Sam Raimi. On aurait pu jouer autour de la filmographie de Sophie Marceau, mais j'ai préféré quand même jouer avec celle du réalisateur américain. C'est Cinérama qui débute avec la suite de la comédie culte avec Sophie Marceau. Nous parlons de LOL 2.0.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
LOL 2.0, réalisé par Lisa Azuelos, est la suite très attendue du film culte LOL sorti en 2009, c'est-à-dire, bah oui, il y a 17 ans, hein, ça nous rajeunit pas ça. Dans ce nouvel opus, la caméra se tourne vers une France résolument 2020s, hyper connectée, fragmentée, où les jeunes générations, et pas que, semblent plus tiraillées que jamais entre aspirations individuelles, collectives et codes sociaux traditionnels. En reprenant Sophie Marceau dans le rôle d'Anne, la maman, entourée d'une distribution mêlant visages familiers et nouveaux talents, LOL 2.0 cherche à capter l'air du temps sans renier l'esprit de son prédécesseur.
Louise, ça pue. C'est sûr que moi, ça m'amuse de revenir vivre chez ma mère. Comme ta sœur, là, il y a 15 ans. J'ai encore le droit de me sentir chez moi ici ou plus du tout?
Le premier LOL avait fait de Christa Terré, hein, qui jouait alors Lola, jeune lycéenne dans un quartier huppé de Paris, une figure générationnelle emblématique, reflet d'une jeunesse qui découvrait à peine les réseaux sociaux, le tout dans un milieu bourgeois et peu inclusif. LOL 2.0 reprend cet héritage socioculturel tout en l'élargissant à une France légèrement plus diverse et n'interroge certes pas tellement la classe, mais les identités, les genres, les orientations sexuelles, le validisme ou encore la neuroatypie, en abordant tout cela parfois un peu en surface ou via l'œil sceptique d'une génération un peu dépassée, mais en abordant tout ça quand même.
Non, hé,
j'ai rencontré un homme avec son chien là.
Vincent, enchanté.
Très beau, hein.
Qui ça, le chien ou le mec?
Meuf, il s'est passé quoi là?
C'est trop bête de passer à côté de l'amour.
L'amour, carrément.
Le film démarre sur la voix off de Louise, qui était déjà présente dans le premier LOL car c'est la petite sœur de Lola. Elle est incarnée ici à l'âge adulte par Thaïs Alessandrin. Louise pose ainsi le décor de sa vie de jeune adulte à Paris. En parallèle, on retrouve également Anne, sa maman, jouée par Sophie Marceau, quinquagénaire fraîchement célibataire qui goûte enfin à la liberté après des années passées à élever ses enfants. Mais voilà, cette tranquillité vole en éclats lorsque Marco brise le cœur de Louise et que cette rupture sentimentale et professionnelle la contraint à rentrer vivre à la maison. Chez maman donc. Peu après, c'est Théo, incarné par Victor Belmondo, hein, qui annonce à Anne qu'elle va devenir grand-mère, ajoutant un bouleversement supplémentaire dans une période déjà instable. De surprise en remise en question, Anne doit naviguer entre les codes d'une génération qui ne cesse d'évoluer et ses propres repères, tandis que Louise tente de se reconstruire et de redéfinir sa place dans sa vie pro et perso. La focale alterne ainsi, hein, entre les points de vue de Louise et de sa mère, suivant leur cohabitation, leur tension, leur rapprochement et leur trajectoire sentimentale respective.
Tu veux une meuf épilée comme une actrice porno qui sent la tisane au thym? Mais frère, va baiser une bougie en fait.
Et va aller enceinte.
Et de qui?
Ah bah de moi je crois, maman.
Ah bon?
J'ai juste l'impression de passer à côté de ma vie tout le temps. Tout va s'arranger.
Ça, à ton époque, nous, on cherchait à construire une vie.
Je vous aime. Voilà, je vous dis, je vous aime.
Vous voulez en vivre 1000.
Bonne soirée, madame.
Ça t'apprendra à m'appeler madame.
Un choix marquant du film, c'est évidemment l'absence de Lola, personnage emblématique du premier opus. Christa Terré a fait le choix de ne pas reprendre ce rôle, et pour Lisa Azuelos, l'obstacle de cette absence lui a offert une opportunité, celle de déplacer le centre de gravité du récit vers Louise, dans un contexte totalement différent de celui de 2009, après la période charnière du lycée. Ce déplacement permet d'éviter la redite, même si une forme de redondance peut parfois se faire sentir. Les vraies différences, en fait, elles sont ailleurs que dans le scénario, notamment dans la mise en scène de la surcharge informationnelle. Le film adopte un montage extrêmement rythmé, fait de superpositions d'écran, de sorties surréalistes, d'irruptions d'images animées, ce qui retranscrit bien la pression constante des réseaux sociaux et des stimuli numériques. Un choix stylistique assez fort qui constitue sans doute l'un des atouts majeurs du film et qui se cristallise aussi parfaitement dans le script, avec par exemple cette réplique d'Anne à sa fille : à votre âge, nous, on essayait de se construire une vie, c'était déjà difficile. Vous, vous en avez mille et vous passez votre temps à vous comparer. Au final, Sophie Marceau s'impose un peu plus comme le pilier émotionnel du film. Elle nous fait vivre des moments très drôles, on ne sort pas indemne de l'épisode du chocolat aux champignons hallucinogènes, et elle parvient à rester juste malgré le chaos que représente cette transition de vie. Les jeunes comédiens apportent de la fraîcheur, mais sans retrouver tout à fait le charisme des figures adolescentes du premier LOL. Quant au retour de certains personnages historiques, le personnage de Maëlle notamment, l'ancien amour de Lola, incarné à nouveau par Jérémy Capone, mais aussi d'autres personnages, Alain, le père de Lola et de Louise, qui a quitté Anne pour une amie de Louise de 25 ans, sa cadette, toujours interprétée par l'excellent Alexandre Astier, ou encore la grand-mère, jouée par la délicieuse Françoise Fabian. Tout cela inscrit davantage le film dans une continuité affective, plus que narrative. Continuité d'ailleurs merveilleusement bien portée par la bande-son, ultra actuelle, mais qui contient aussi plein de clins d'œil à celle du premier LOL. Enfin, si chaque enjeu sociétal abordé mériterait sans doute un traitement plus approfondi, l'ensemble témoigne d'une ambition plurielle assez intéressante, même quand elle frôle parfois le patchwork.
LOL 2.0 est en salle depuis le 11 février. Allez, relecture moderne et intense d'un classique romantique porté par Margot Robbie, Jacob Elordi. Nous parlons très vite d'Hurlevent.
Bah oui, c'est le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Léo de Hurlevent d'Émilie Brontë fait partie des grands classiques de la littérature qui ont plusieurs fois été adaptés au cinéma, en 1939 par William Wyler, en 1992 par Peter Kosminski ou 2011 par Andrea Arnold, chacun insufflant sa vision sur ce roman ombrageux révélant la cruauté des personnages. La version proposée par Emerald Fennell est plutôt dans l'air du temps, surfant sur la dark romance et attirant un lot de jeunes spectateurs attirés par exemple par les images sulfureuses de la bande-annonce. Le ton est donné dès l'entame du film avec le rituel du pendu dont le sexe bande le pantalon au moment de trépasser. Eros et Thanatos vont être liés.
Que ferais-tu, Heathcliff, si tu étais riche ?
Sûrement ce que font tous les hommes riches. Je vivrais dans une grande maison. Je serais cruel avec mes domestiques. Prendra une femme.
Une femme ? Quelle femme ?
Comme beaucoup de cinéastes avant elle, Emerald Fennell a choisi de s'arrêter à la mort de Cathy Earnshaw, de ne pas aller plus loin dans la vengeance de Heathcliff, personnage évidemment central qui veut se venger du sort qu'on lui a fait, de la famille qui l'a accueilli comme de celle qui lui a volé celle qu'il aime. Alors ce n'est pas tellement un problème de couper dans le récit, mais la vue de la réalisatrice britannique est assez courte quand il s'agit de questionner les desseins du personnage masculin joué par le géant Jacob Elordi. C'est d'ailleurs celui de Cathy, interprété par Margot Robbie, qui est de quasiment tous les plans. Le propos est là. Cathy Earnshaw est une belle jeune femme, désargentée et frustrée. Elle choisit un mariage de raison avec un riche voisin qu'elle n'aime pas, en sacrifiant son amour d'enfance, ce fameux Heathcliff que son père appelle son animal de compagnie. Rien ne va plus quand Heathcliff entend des bribes de confession de sa bien-aimée qui le place plus bas que terre. Il met les voiles, ce qui rend fou Cathy, s'adonnant tout de même à une douce vie dans un grand manoir kitsch, à la tapisserie de la chambre de la couleur de sa peau avec un petit grain de beauté, une autre pièce au sol rouge, et j'en passe. Alors on est loin du 18e et 19e siècle du roman, les robes de Cathy toutes plus extravagantes les unes que les autres, et la musique vous extirpe assez vite également de la simple reconstitution historique. Il faut que ça claque.
Heathcliff, tu n'es pas à la hauteur. Pas pour elle.
Monsieur Linton m'a demandé en mariage.
Heathcliff est parti. Vous devez l'accepter.
Si Hurlevent montre de belles idées, les escapades dans les Landes du Yorkshire, les contrastes entre la minéralité des bâtiments et le ciel rougeoyant, le long métrage se montre beaucoup moins inventif dans les scènes chaudes, dans l'étreinte des corps. Cela confine un peu au ridicule. En tout cas, la salle glousse de voir l'expression d'un sadomasochisme soft où ne traîne aucune paire de cuisses ni un bout de sein, mais laisse une langue laper une larme sur un visage. Le degré zéro de l'érotisme qui n'a rien non plus de cérébral. Hein. La seule réussite demeure la séquence où Heathcliff explique à sa future femme ce qu'il va faire d'elle dans le seul but de se venger de Cathy, tout en lui demandant à chaque étape si elle accepte. Ainsi s'exprime à forte dose le consentement post-MeToo. Hurlevent semble trahir le roman dont il s'inspire, ne faisant de son personnage masculin qu'un amant désorienté par la vengeance, laissant plutôt sa cruauté s'épancher dans un érotisme fade. Il faut bien avouer que ce Hurlevent est un peu long et que Cathy tarde trop à mourir. Hurlevent est en salle depuis le 11 février. Le nouveau film du maître du thriller sud-coréen où un homme abandonné par la société prend des mesures extrêmes. Nous parlons d'aucun autre choix de Park Chan-wook.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Fidèle à son rendement d'à peu près un film tous les 3-4 ans, hein, Park Chan-wook ne déroge pas à l'une des constantes de son cinéma qui est de sonder l'âme humaine lorsqu'elle est confrontée à un choix drastique, hein, qui plus est lorsque ce choix lui permet de métaphoriser un mal de la société coréenne. Alors mondialisation aidant, hein, ces thématiques trouvent de plus en plus d'écho dans notre société occidentale, au point que son dernier effort, hein, Aucun autre choix, pourrait avoir été tourné en France. Et bien bingo, hein, derrière Aucun autre choix se cache une adaptation du roman The Axe de Donald Westlake, que nous connaissons particulièrement bien ici puisqu'il a été adapté par Costa Gavras en 2005 sous le titre Le Couperet. Costa Gavras et Michel Ray Gavras ne sont pas étrangers à cette nouvelle adaptation, hein, puisqu'ils sont crédités comme coproducteurs par Chan-wook, dédiant carrément Aucun autre choix au cinéaste franco-grec. Alors en gestation, hein, depuis de très nombreuses années, hein, avant même de savoir que l'actuel patron de la Cinémathèque française en avait déjà tiré un long métrage, Aucun autre choix est presque un film terminal pour son réalisateur, comme son titre idéal peut en témoigner.
Bon, bon, tiens.
Yu Man-su est un homme heureux. Travailleur acharné, il a su devenir un expert en son métier, a bâti une famille comblée et a même pu racheter sa maison familiale pour s'épanouir. Alors tout irait pour le mieux si, au bout de 25 longues années de dur labeur, il n'avait pas été mis à la porte de son usine de papier. Alors fini les avantages de cadre et de repartir de zéro et subir, en plus de l'humiliation d'être remercié comme un malpropre, le poids de devoir sabrer les dépenses pour sa famille. Terminé les beaux chiens coûteux dont le départ a brisé le cœur des enfants. Terminé les cours de musique onéreux pour la plus petite, malgré son évident talent. Terminé tout ce qui sort de l'ordinaire le plus élémentaire. Et bonjour au marché du travail, éminemment compétitif et lutte féroce pour trouver une place quelque part malgré son CV prestigieux. Yu Man-su découvre qu'il n'est pas le seul à postuler pour le job de ses rêves et qu'il n'est peut-être pas le candidat le mieux noté pour obtenir le poste. Acculé par la revente imminente de sa maison et alors qu'une dent pourrissante qu'il ne peut soigner faute d'argent commence à lui empoisonner le quotidien, Yu Man-su opte pour la solution extrême: éliminer la concurrence, mais au sens propre. On ne sera pas surpris de savoir que, en notant l'engagement et la tonalité de la filmographie de Park Chan-wook, et en particulier des films comme Aucun autre choix, qu'il est membre du Parti démocratique du travail de Corée, soutient activement les travailleurs et les actions syndicales au point qu'il fut un temps mis sur liste noire et privé de subventions publiques par la ministre de la Culture en raison de son opposition à la présidente de la République de son pays de l'époque. Et ce n'est donc pas une surprise de l'avoir vu lier des relations humaines et artistiques fortes avec Costa Gavras, cinéaste du questionnement du système et porte-parole des populations opprimé. Alors il avait déjà prouvé sa virtuosité avec des thrillers politiques comme Joint Security Area ou sa trilogie de la vengeance, All Boy en tête, métaphorisant la lutte des classes et l'aliénation de la société et transformant son anti-héros en fourmi sans repère. Il renoue avec cette auscultation du vernis communautaire qui, dès qu'on le gratte un peu, laisse s'échapper la bête enfouie qui n'attendait qu'une sortie de piste pour reprendre le dessus. Alors cette version kubrickienne de la nature de l'homme jouit ici d'un humour très noir, corrosif et parfaitement maîtrisé qui vient donner de l'ampleur aux scènes de suspense ou de tension. Park Chan-wook atteint ici un équilibre digne des meilleurs films de l'un de ses maîtres, Alfred Hitchcock, tant tous les rouages s'emboîtent parfaitement pour livrer un drame social acerbe, dérangeant et aussi très drôle dans ses pires moments. Ah, Park Chan-wook retrouve Lee Byung-hun, hein, 20 ans après Cut, le segment qu'ils avaient tourné pour le film à sketch 3 Extrême, et 25 ans après leur explosion commune avec le chef-d'œuvre Joint Security Area. Alors à ses côtés, hein, Ye Jin-sun hein, est incroyable en femme horrifiée hein, par les actes de son mari, mais pas forcément différente hein, dans ses choix moraux. L'écriture est d'une profonde intelligence en distillant au fur et à mesure la véritable nature de ce couple et des autres personnages qui se révèlent au fil des événements et dont le passé montre un conditionnement à la fois familial et sociétal qui ne pouvait amener qu'un carnage en guise de guide des bonnes manières apparentes d'un pays. Alors il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir aucun autre choix car c'est littéralement le chef-d'œuvre de ce début d'année.
Et vous pourrez le faire à partir du 11 février. Deux survivants d'un crash s'affrontent sur une île déserte. Nous parlons de Send Help.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Après Oz et Doctor Strange, Sam Raimi a lâché les studios Disney pour retrouver un univers cinématographique plus proche hein, de ses débuts, avec une grosse pincée de gore. Mais ici, il n'y a point de surnaturel. Le Necronomicon, le livre maléfique, est remplacé par un dossier à soumettre à l'administrateur de la société dans laquelle travaille Linda, interprétée par une Rachel McAdams, remarquable. Dans l'open space, on sait que ce n'est pas la plus aimée. Hein. Elle est un peu gauche, mal fagotée, solitaire, mais ultra compétente. Elle attend une promotion qui ne viendra pas, car le fondateur de la société qui lui avait promis le poste est mort. Place au rejeton, qui exècre ce que représente Linda, préférant le golf, le clinquant et les relations testostéronées à la compétence. Pendant toutes ces séquences, Sam Raimi utilise des inserts pour cloisonner les personnages, les opposer.
Je vais être honnête avec vous. Vous êtes intelligente. Je sais que vous êtes doué pour les chiffres, mais vous n'avez pas le truc. Et au sein de cette société, vous nous apportez pas grand-chose. Vous comprenez ?
Pardon, quoi ?
Voilà une relation sociale mise en place, un Bradley, un patron exécrable face à une employée méprisée. Mais tout va basculer à la faveur d'un accident d'avion qui va propulser les deux protagonistes sur une île au milieu de nulle part. L'accident vaut sacrément le coup d'œil. Il ne s'agit pas seulement de subir un terrible drame, mais aussi de voir les différentes personnalités s'exprimer en tirant les traits de leur égoïsme. On n'est pas très loin de la farce et il faut bien admettre que les personnages ne sont pas très nuancés. Hein. Mais c'est utile pour ce qui va se produire quand les deux survivants vont se retrouver seuls sur cette île avec le patron un peu mal en point et Linda qui ne manque pas une émission de Koh-Lanta et qui, elle, est bien d'aplomb.
Regardez qui est de retour parmi les vivants.
Combien de temps ?
Vous êtes resté inconscient, un jour et demi.
Vous avez tenté d'envoyer un signal de détresse ou de faire un feu plus gros ?
J'étais occupée à essayer de nous maintenir en vie.
Votre priorité, ça devrait être de nous sortir de là. Pas de jouer à la dinette.
Qu'est-ce que vous venez de dire ?
Je vous rappelle que c'est moi le patron. Vous bossez pour moi.
Sauf que là, on n'est plus au bureau, Bradley.
Et oui, pour ceux qui ont vu Sans filtre, hein, cela ne sera pas une surprise. Dans le film de Ruben Östlund, Palme d'Or 2022, les naufragés rebâtissent un ordre social sur leur île. Même conséquence, dans Send Help, le patron est donc soumis à son employé, car c'est elle la spécialiste de la survie. Mais de cette situation de naufragé, Send Help fait autre chose qu'un simple survival contre la nature. Les deux naufragés vont aussi s'affronter l'un l'autre, ce qui ajoute au défi de la cruauté et une certaine forme de comédie avec le spectateur qui a toujours un temps d'avance sur le patron Bradley, figure moralement condamnable. Mais le film est aussi une affaire de morale. Quand à mesure que les jours s'écoulent sur cette île, eh bien on saisit que Linda compte bien y rester et ne veut surtout pas que les secours interviennent.
Personne ne viendra à notre secours. Vous allez devoir accepter la situation telle qu'elle est. Vous vous retrouvez avec une chef odieuse sur le dos. Tout comme je l'étais. Mais je suis prête à parier. Je suis une chef bien plus sympa que vous l'auriez jamais été. Excepté peut-être sur un point. On devrait rester ici pour toujours.
Dans l'entreprise, donc, c'est Bradley qui mène le jeu. Sur l'île Selinda, les règles sont simples. Send Help se montre particulièrement jouissif quand Linda se met aux trousses d'un sanglier pour varier le déjeuner ou quand elle décide de donner une leçon de savoir-vivre à son compagnon d'infortune. Comme dans Sans filtre, déjà cité, il y a du vomi qui vient rythmer une séquence vraiment absurde et drôlatique, mais vraiment, enfin vraiment, quoi. C'est bien fichu. Sam Raimi n'économise pas ses effets, aide le spectateur à s'y retrouver et lui donne ce qu'il faut d'hémoglobine et de tension jusqu'à un twist ponctué d'un épilogue, alors avec un carcan caméra absolument déroutant, comparable à celui de Gone Girl de David Fincher. Et là, je dis bravo Sam Raimi pour cette trouvaille. Je n'aime pas particulièrement les regards caméra, mais celui-ci, qui semble presque dire « Et alors, c'est si terrible ce que j'ai fait », porte en lui beaucoup de sens après avoir vu des images qui s'apparentaient davantage à un amusement ponctué de gore. Ce film « Send Help » de Sam Raimi est en salle depuis le 11 février. Il nous donne l'occasion de jouer à un blind test. La formule est simple, vous écoutez 5 extraits et vous devez trouver le titre. Et nous jouons aussi dans les studios. Premier extrait.
Au fait, Scotty, il ressemble à quoi, ce chalet ?
Le gars qui nous loue a dit qu'il était un petit peu délabré et qu'il datait pas d'hier. Mais il est situé en plein cœur des montagnes. Et le plus beau, c'est qu'il est bon marché.
Comment ça se fait que c'est si bon marché ?
Bah en fait, je sais pas trop. Il est peut-être vraiment délabré.
Parce que personne l'a encore vu, ta baraque, c'est ça ?
Ce sera la surprise.
Ça peut pas être totalement nul ?
Non !
Ça peut même être sympa, en fait.
Ouais !
Ma main au feu que c'est un trouard.
C'est trouvé.
C'est le premier Evil Dead.
Ah oui, c'était facile, la cabane. Saint Camille réveille les forces démoniaques dans une cabane isolée après avoir lu le livre des morts. Deuxième extrait de ce Blind Test consacré à la filmographie de Sam Raimi.
J'ai gagné. Donnez-moi l'éléphant pour ma fiancée.
Rien à foutre. Casse-toi maintenant.
L'éléphant. Tout de suite.
T'es sourd ou t'es débile ? Pont rouge. Dégage.
Bon, ça va mal se passer. C'est trouvé.
Ben oui, c'est Darkman.
Oui. Un scientifique défiguré utilise des masques de synthèse pour se venger des gangsters qui l'ont laissé pour mort. C'est un film de 1990 et on entendait la voix française de Liam Neeson. Troisième extrait.
Écoute, tu es en train de changer. Je le sais, il m'est arrivé exactement la même chose quand j'avais ton âge.
Non, non, pas exactement.
Oh, Peter. Ce sont là les années où un gamin commence à se transformer en l'homme qu'il sera pour le reste de sa vie. Faut pas te transformer en n'importe qui. Ce type, ce Flash Thompson, a probablement mérité ce qui lui est arrivé. Mais le fait que tu sois capable de le battre ne te donne pas le droit de le faire. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Encore facile.
C'est le premier Spider-Man.
Oui, mordu par une araignée génétique, Peter Parker devient un super-héros et affronte le redoutable Bouffon Vert, film de 2002. Encore un extrait.
Ce qui lui arrive, c'est que depuis quelque temps, elle a la tête farcie de conneries par une sale adoratrice du diable. Ou une arnaqueuse de première. C'est l'un ou l'autre. Je sais qu'elle est venue vous voir ici, vous et votre saloperie de vaudou. Vous lui dites des trucs sur moi. Vous valez pas mieux qu'un juif ou un nègre.
Et c'est trouvé.
C'est intuition ?
Oui, y avait quand même des mots-clés. Une veuve dotée de dons de voyance aide la police à résoudre une affaire de meurtre dans une petite ville du Sud. Dernier extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Sam Raimi.
Vous êtes vraiment rapide. J'espère ne pas me battre contre vous.
Vous avez choisi d'être là, pas moi.
Il vous a forcé à le faire.
C'est moi qui ai pressé la détente.
C'est pas la ville idéale pour un prêtre.
J'ai pas toujours été prêtre.
Cort était hors la loi, comme nous. Pas vrai ?
Et c'est trouvé.
C'est mort ou vif ?
Oui, film de 95 avec Sharon Stone, enfin sa voix française. Une mystérieuse tireuse participe à un tournoi de duel à mort pour se venger du tyran qui dirige la ville. C'était facile pour toi, Guillaume, qui adore Sam Raimi, évidemment.
Evil Dead est même mon film préféré.
Et oui. Et donc, nous parlions de Send Help actuellement sur les écrans. Un regard poignant sur une famille bouleversée par une décision inattendue. Nous parlons de Les Dimanches.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité cinéma. Et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre, moi.
Voilà un film qui a marqué les festivals dans lesquels il a été projeté. Les Dimanches d'Aloda Ruiz de Azua a remporté le prix du meilleur film au festival de Saint-Sébastien ainsi que l'Antigone d'Or au festival Cinémet de Montpellier, le festival du cinéma méditerranéen. Il est celui aussi qui a le plus de nominations pour l'édition 2026 des Goya, qui est l'équivalent donc des Césars espagnols. Il n'a pourtant, quand on lit le pitch, rien de très attrayant. À 17 ans, Enara, élève dans un lycée catholique, s'apprête à passer son bac et poursuivre son parcours. Mais ce qu'elle souhaite, c'est entrer dans les ordres. Une situation qui à notre époque a de quoi décontenancer et met du questionnement dans la famille. Et c'est là où cela devient très intéressant. Jamais la réalisatrice ne vient discuter la foi ou l'aspiration à la vie monacale. Le souhait de la jeune fille est admis. Elle s'intéresse davantage aux réactions de son entourage.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
¿Tú lo has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh?
Pour le père Denara, c'est d'abord la surprise qui l'emporte. Un veuf, il voit tout de même un avantage, une bouche de moins à nourrir, et puis il se résigne moralement à accepter le souhait de son enfant comme une évidence. Une position que lui reproche sa sœur, donc la tante Maïté. C'est le personnage le plus captivant du film. Proche de sa nièce, elle imagine d'abord que le choix de se tourner vers Dieu est le témoignage d'un mal profond, propose même au père de l'envoyer chez le psy. Devant l'aplomb de la candidate au couvent, elle passe à l'attaque, ne supporte pas l'idée que tout s'arrête à cet âge où l'on doit expérimenter la vie pour se construire. En parallèle, le film esquisse d'ailleurs une possible histoire avec un garçon, comme une autre voie qui s'ouvre, mais Kenara semble déjà avoir refermé. Un trait de mise en scène vient pourtant sceller donc la volonté de la jeune fille, la montrant danser en boîte, non sur la musique du moment, mais sur un chant religieux de la chorale qu'on avait vu la séquence d'avant.
Es una vocación religiosa, no se le va a pasar porque le ofrezcas un plan mejor.
¿Cómo se le va a pasar?
Bueno, pues no lo sé, Maite, ¿cómo se le va a pasar? No tengo ni idea.
L'ensemble des réflexions portées par Les Dimanches est remarquable. La manière dont l'entourage de la future religieuse se disloque donne la mesure du questionnement de cette situation radicale qui pousse quelqu'un à se cloîtrer. Ce n'est pas rien. Son choix ne l'engage pas seulement lui, mais aussi ses proches. Le personnage de la tante est central. Athée convaincue, elle se montre d'abord la plus ouverte, accompagnant la défense de la liberté de choix, avant d'expliquer ouvertement que la religion est une secte et finit par devenir complètement intolérante. Aloda Ruiz de Azua est aussi, je le précise, la réalisatrice de Queerir, actuellement sur Arte. Et voilà, c'est un film vraiment remarquable à aller voir, Les Dimanches. C'est un film tout en simplicité, mais avec plein de questionnements et une mise en scène très réussie. Nous terminons avec un documentaire en musique qui redonne vie au mythe du chanteur Jeff Buckley.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama.
Parfaitement au point et incapable de nous tromper.
Les amateurs de biopics musicaux vivent un âge d'or en ce moment. Alors même si le succès n'est pas toujours aussi éclatant que celui de Bohemian Rhapsody, le genre nous a récemment offert des pépites comme le génial Better Man, ou le rondement mené Un simple inconnu, et on attend des chiffres énormes pour le film consacré à Michael Jackson, qui va bientôt arriver. Bon, entre-temps, le documentaire musical sur grand écran, lui aussi, s'est taillé une place non négligeable, et après l'excellent Moon Age Daydream consacré à David Bowie, voici arrivé It's Never Over, Jeff Buckley, d'Amy Berg, déjà à l'œuvre sur, entre un documentaire sur Janis Joplin narré par Cat Power en 2015. Mine de rien, c'est déjà le deuxième documentaire sur Buckley, après Everybody Here Wants You en 2002, ce qui est considérable pour un chanteur disparu tragiquement à l'âge de 30 ans.
He was literally the best singer I've ever heard. He was and he's my favorite.
Alors, It's Never Over, Jeff Buckley propose des images jamais vues auparavant, des enregistrements audio exclusifs et des témoignages de l'entourage privilégié de Buckley qui permettent de dresser un portrait riche, humain et captivant du musicien talentueux qui est mort tragiquement en 97 et qui n'a sorti qu'un seul album. Amy Berg nous raconte sa vie, son parcours, sa carrière et son rapport à la musique principalement à travers sa mère, Marie Guibert, et deux ex-partenaires, l'artiste Rebecca Moore et la musicienne Joanne Wasser. Alors de quoi nous plonger dans l'intimité de ce qui a nourri la création du célébrissime album Grace et de sa non moins célébrissime reprise d'Alléluia de Leonard Cohen. Alors sans occulter sa part d'ombre et le fait que les étincelles créatrices créent parfois d'intenses feux, artistiques ou non, d'anciens membres de groupes et amis complètent le portrait d'un artiste complexe qui a brillé intensément mais qui nous a côtoyé de manière beaucoup trop éphémère compte tenu de l'impact de sa musique qui est toujours aussi populaire aujourd'hui. It's Never Over, Jeff Buckley est détaillé et émouvant et rappelle que ce n'est pas tant le rock'n'roll qui ne mourra jamais, c'est surtout l'aura et l'esprit de ses plus illustres praticiens. C'est aussi la plus belle déclaration d'amour que l'on puisse faire, j'ai envie de dire, à la puissance de l'art.
Eh bien, c'est à voir au cinéma depuis le 11 février.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier. Le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine, Guillaume. Tu auras un film.
Oui, c'est Cleaner de Martin Campbell.
Et puis toi, deux films, Sophia.
Oui, je vous parlerai de Couture et de Little Trouble Girls, dont j'ai rencontré la réalisatrice.
Et moi, je vous parlerai d'un film absolument savoureux, un film libanais. À la semaine prochaine.